Je vais ouvrir avec. On est deux pour ouvrir, puisque Laurence m'a aidé à préparer cette journée. Laurence de Kock, qui est à ma droite. On va essayer de vous présenter un peu les attendus de cette journée. Voilà. La question qui se pose à nous, qui est une commande de la direction de l'INRP pour cette journée de formation, on a intitulé ça, et c'est sur la suggestion pertinente de Laurence de Kock, « École au pluriel et nation au pluriel ». Point d'interrogation. Je pense qu'à la fois les pluriels et le point d'interrogation ne vous ont pas échappé. Parce que si la nation est un construit, dans l'histoire des peuples, il y a des constructions nationales, il y a des systèmes éducatifs, et l'analyse que l'on peut faire de ces variations se font à la fois dans l'espace, évidemment, ne serait-ce que en comparant avec notre voisin allemand ou italien, mais aussi dans le temps, et un même système éducatif construit au nom duquel du reste dans une nostalgie permanente on se réfère à l'origine, Jules Ferry, l'école de la République, la vraie, la seule, la blouse grise, enfin, et toutes les mythologies attachées. Olivier Loup va en parler, va en dire deux mots. Ce système éducatif évolue dans le temps, ne se situe pas dans le même contexte historique et, bien entendu, revêt des formes différentes. Et puis la question qui se pose du lien entre école et nation, c'est bien la question de en quoi la nation construit l'école ou en quoi l'école construit la nation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens dans le commun, qu'est-ce qui détermine le fait de construire du commun, et est-on sûr que nous construisons du commun, est-on sûr que nous avons construit du vrai commun, toutes ces questions qui sont des questions redoutables, qui intéressent les chercheurs bien évidemment. Alors il y a un contexte qui est double, qui est triple, mais le premier élément a été rappelé par Michel à propos de la situation de notre maison. Le contexte double, c'est celui de la fin d'un débat sur l'identité nationale. Il ne vous a pas échappé qu'il n'y a même plus de ministère avec un nom attaché. C'est-à-dire que on est à la fin d'une séquence politique, je pense que Laurence en parlera mieux que moi en plus, on est à la fin d'une séquence politique qui a proposé un débat sans pareil. Pourquoi ? Parce que pour celles et ceux qui ont suivi le débat dans les préfectures, vous avez pu voir que tout le monde y allait, et de manière, je ne sais pas si certains ici sont allés dans les préfectures, moi j'ai eu la chance d'en faire deux, comme non pas intervenant, hein, mais participant ou observateur, j'avais demandé cette fonction-là. Ce qui est très frappant, c'était les prises de parole. C'est-à-dire que le débat sur l'identité nationale, dans à peu près 90% des réponses faites par Internet auprès du site du ministère, ou que ça soit dans les débats dans les préfectures avec les recensions qui ont été faites, 90% des thématiques tournaient autour de l'école. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de consubstantiel. Quand on réfléchit en France sur la nation, avec l'école, avec le système éducatif, et plus spécifiquement encore, avec la transmission des valeurs, l'éducation civique, l'instruction citoyenne, et l'apprentissage de l'histoire. Pour avoir consulté un peu les statistiques, des disciplines comme les mathématiques ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine national, ou en tous les cas n'étant pas directement impliquées. Il est clair que on était dans un contexte où l'école était en permanence sollicitée de répondre, de se justifier éventuellement même aux yeux des journalistes qui pouvaient se saisir de tel ou tel. On n'apprend plus l'histoire de France, c'était une ancienne très très classique, très courue, mais c'est une véritable question qui a émergé en permanence. Alors, non seulement il y avait des prises de parole et absolument de tout le monde, pour avoir assisté, j'étais frappé de la diversité sociale des prises de parole, mais aussi ça a agité le monde intellectuel, bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un débat national massivement relayé par l'institution, par l'État, et en même temps un non-débat qui, en fait, correspondait à une forme de prise de parole dans le débat, qui était les intellectuels se justifiant de ne pas participer au débat, et qui représentait en masse de papiers, de signes, de feuillets dans les journaux, à peu près l'équivalent de ce qu'aurait pu être un véritable débat sur l'identité nationale si les intellectuels avaient accepté, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe, la forme du débat. Autrement dit, ce qui nous a paru manquer dans ce contexte-là, c'était un discours analytique. C'est-à-dire que se sont abstenus de participer au débat ceux précisément qui étaient les plus à même de porter un discours analytico-descriptif de la question de la construction du national, de la construction de l'histoire, de la construction de l'école, de la construction de l'école dans le cadre national français ou dans le cadre national européen, dans le cadre fédéral européen, ou peu importe comment on le nomme. C'est-à-dire qu'il nous a manqué tout ce qui faisait l'apport des contributions scientifiques, qu'elles soient sociologiques, juridiques, historiques. Du coup, le deuxième pan de ce contexte, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, et je ne révèle aucun secret puisque maintenant c'est tout à fait officiel, était, on l'a vu, très embarrassé par un tel débat au sein de l'institution scolaire. Et le ministre Châtel a bien mentionné qu'il faisait parfaitement confiance aux enseignants pour régler la question du débat à l'intérieur des classes, à l'intérieur des établissements, et a demandé à l'Institut national de recherche pédagogique de mettre en place un débat sur la question de l'identité nationale ou la question du national dans l'école, d'une manière qui nous semblait la plus appropriée, faisant confiance en cela à notre métier, inscrit depuis de nombreuses années sur ces problématiques-là, puisque ça fait à peu près 20 ans que l'Institut travaille sur des thématiques connexes. Alors, on pourrait évoquer les travaux de François Digier, de Nicole Tutu-Guyon, faudrait évoquer les travaux de Nicole Alliemarie sur la place de l'enseignement de l'Europe dans l'enseignement de l'histoire et de la géographie. On pourrait multiplier comme ça les exemples de... on pourrait dire aussi un mot du travail du musée de Rouen, qui avait fait une magnifique exposition « Paix comme patrie ». Toute une série de travaux qui ont été initiés à l'intérieur de l'Institut et qui permettaient de répondre, adossés aux meilleurs travaux historiques, à la question du lien entre l'école et la nation. Et du coup, nous avons proposé au ministère, et ça a été accepté immédiatement, de faire, premièrement, un débat totalement scientifique, et vous comprenez bien l'enjeu, c'est-à-dire un débat qui devait être plutôt un séminaire scientifique, qui devait être adossé aux derniers travaux de recherche, contrôlé par un comité scientifique indépendant, ce qui est le cas, dirigé par des gens comme alors Olivier Loub, qui va être là à l'instant, qui fait partie du comité scientifique, mais Antoine Pro, Jean-François Chanet, Patrick Cabanel, Jacqueline Gautrin, enfin bon, on a, je pourrais citer tous les noms, mais bon. Et puis des partenaires étrangers, puisque la deuxième spécificité du séminaire, c'était de le faire à l'international, c'est-à-dire... un séminaire qui permettait de réfléchir sur les dimensions du national, les dimensions identitaires, mais dans un cadre international. L'Université autonome de Barcelone a été pour nous un relais et un appui formidable. Contexte qui... parce que toute la question, en fait, était de montrer la... Bonjour Gérard. Pour montrer la dimension prospective et critique de la démarche scientifique... et comparative également. Je vais essayer de vous brosser très rapidement, avant de laisser la parole à Laurence, quels sont ce qu'il est indiqué dans le programme, qu'il faut dire deux mots des recherches menées dans le cadre de l'INRP. Il y a le moment où la nation rencontre, où les questions identitaires rencontrent les recherches, c'est autour de deux formes de recherche en didactique, pour dire les choses, sur la pédagogie. D'abord, il y a des travaux portant sur l'institutionnel, les demandes institutionnelles. Alors, je les liste parce qu'en général, vous allez voir qu'elles sont très liées à nos préoccupations, parce que Michel Bois disait que est-ce qu'on était vraiment dans un rapport, est-ce que c'était une question vive, en fait, la nation? Je pense qu'elle est sourdement vive. Je ne sais pas si ça se dit en français, Michel. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas vive directement, mais je pense qu'en fin de compte, elle est une des questions qui taraude le plus le corps enseignant, sans même que le corps enseignant en ait toujours conscience. Alors, il y a trois demandes institutionnelles qui ont été étudiées ici à l'INRP. D'abord, la question du patrimoine, qui a été une des grandes commandes ministérielles. Et à travers le patrimoine, il y avait bien la définition d'un patrimoine national. Qu'est-ce que nous devons faire rentrer dans la tête et l'esprit des élèves, dans les apprentissages, ce qui relève du patrimoine entendu comme le bien commun à tous les Français, avec évidemment l'extension européenne, puisqu'on est toujours dans ce souci de jouer sur plusieurs échelles. Il y a une deuxième commande qui est la question qui ressemble là à une sorte de prescription, je n'allais pas dire illusoire, mais une prescription difficile à tenir. Faire l'Europe. Nous sommes européens. quand le corps enseignant est totalement inscrit dans l'espace français et dans une tradition française, à la fois du rapport aux apprentissages, des connaissances, et les élèves doivent devenir européens. Voilà une question aussi qui est étudiée ici à Bien-Aimé. Et puis la dimension du fait religieux. Parce que l'explosion de la question du fait religieux comme sujet vif, d'actualité ou sujet controversé dans les classes, c'est réellement une question qui interroge les identités. Et je passe très vite, mais vous vous souvenez du débat immense autour de la ratification du préambule de la Constitution européenne, autour des origines chrétiennes de l'Europe, et des débats que ça a suscité et que ça suscite encore, et notamment de l'intégration ou non de la Turquie dans l'espace européen, avec cette phrase que j'ai entendue magnifique récemment, qui expliquait que Istanbul et la Turquie ne pouvaient pas rentrer dans l'Europe puisqu'il n'y avait aucune résonance historique liée au christianisme à Byzance. Vous voyez, on a besoin des historiens et on a besoin évidemment de... C'est un homme politique connu qui a dit ça. Et évidemment, personne ne réagit sur le plateau. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a là des enjeux qui sont fondamentaux, qui sont liés à la définition de l'espace culturel, de ce qu'on appelle le culturel, qui est une question beaucoup plus large. Deuxième groupe de travaux, et que j'ai eu l'honneur, la chance de coordonner pour leur majorité, même si on était toujours un collectif, et j'ai toujours tenu à ce que ça soit un collectif, que ça ne soit jamais porté par une seule personne, en dehors du fait que c'était impossible physiquement, j'allais dire, c'est tout ce qui tourne autour des questions sensibles d'enseignement. Alors, je ne vais pas faire la liste de ce qui a été réalisé ici. Il y a des collègues ici dans la salle qui peuvent en témoigner puisqu'ils en ont été partie prenante à un moment donné. Enseigner l'histoire de la colonisation à l'école primaire, enseigner l'esclavage. Le rapport va sortir début janvier. Je vous l'annonce, je ne sais pas sur quel site, mais ça va sortir. On fera savoir. Enseignement de l'histoire de l'immigration... enseignement de la Shoah, bien entendu. C'est-à-dire toutes ces questions, au fond, qui font que on travaille à la fois sur les contenus d'enseignement transmis aux élèves, mais aussi la réception par les élèves de ce qu'ils perçoivent être comme un sujet fondamental, pas fondamental, controversé ou controversable, c'est-à-dire sur lequel ils se sentent autorisés de réagir ou non. Et avec toute une série de... Autrement dit, ce qui nous intéresse, c'est à la fois l'institution scolaire dans l'exigence prescriptive d'établir soit de nouveaux programmes, soit d'écriture de nouveaux manuels, mais en même temps, comment les élèves eux-mêmes se saisissent de ces questions. Et sur la question de la manière dont se saisissent les élèves des enjeux, c'est ce qui reste à creuser le plus. Autrement dit, on a travaillé sur ce qui était... Olivier Loup va nous en parler... tout de suite, enfin tout à l'heure, dès qu'on aura fini de parler, on a travaillé sur ce qui vient percuter le roman national, sur ce qui vient créer des brèches dans ce qui nous a été vendu comme étant le roman national. On pourrait parler beaucoup du roman national parce que l'expression elle-même est connotée et inscrite historiquement dans la construction intellectuelle de la réflexion sur les programmes d'histoire et sur l'histoire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que une discipline scolaire, c'est un construit social. Ça, je fais référence aux travaux de Chervel et d'autres. C'est un construit social qui repose sur des savoirs de référence. Vous allez voir, je vais décliner, des savoirs de référence, des choses que l'on sait et que l'on transmet. Deuxièmement, des pratiques recommandées par l'institution, qui dit il faut faire comme ça pour enseigner ça. Et troisièmement, des finalités explicites. Or, avec les sujets controversés, on se retrouve dans une situation très paradoxale depuis l'arrivée paradigmatique de l'enseignement de la Shoah. À un moment donné, on se retrouve que les savoirs de référence, on ne les a pas forcément. Quand on doit aborder à l'école primaire la colonisation, et Gilles Boyer, qui est ici de l'IUFM de Lyon, peut en témoigner, quand on doit aborder la question de la colonisation en classe, à l'école primaire, il faut être au point sur la colonisation. Donc des savoirs de référence manquants, alors certains vont dire occultés ou mal diffusés. Des pratiques recommandées. Y a-t-il eu des pratiques recommandées sur l'enseignement de la Shoah, l'enseignement de l'immigration, l'histoire de l'immigration et tout? Pas tant. C'est très tard que l'institution se saisit de cette demande sociale ou de ces pratiques préexistantes pour pouvoir les intégrer. On le voit bien, notamment avec l'histoire de l'enseignement de l'immigration, l'enseignement de l'esclavage. On voit bien que c'est très récemment dans les programmes de collège que ces thèmes sont portés par l'institution. Mais les manuels scolaires n'ont pas attendu le ministère, et surtout les praticiens dans les classes n'ont pas attendu le ministère. Et évidemment, le dernier point qui reste, si on suit Chervel pour la discipline scolaire, sont des finalités explicites. On avait utilisé avec Laurence une expression que je vais utiliser parce que c'est finalement en 6 ans de travail, c'est peut-être la seule qui va me rester à peu près, dont je vais être fier. On est passé à un enseignement des valeurs, de l'histoire, de la nation, fondé sur des lendemains qui chantent. Dans les années 50, 60, je peux faire appel à des souvenirs chez certains, c'est-à-dire qu'on y croyait. On croyait en tous les cas à un avenir meilleur. Qu'on le situe dans le socialisme, dans le communisme, dans la république sociale achevée, dans l'école émancipatrice, dans les combats des militants pédagogiques. On avait cette idée qu'il y avait quelque chose, des lendemains qui chantent, quelque chose qui se faisait par et dans l'école. On se retrouve aujourd'hui dans une réflexion sur les hier qui déchantent. J'ai réussi à la placer.
Et non pas les IPR.
Et pas... Quoique, c'est pas incompatible. On est passé des lendemains qui chantent aux hier qui déchantent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais c'est pas seulement lié... Il n'y a pas que l'école. Ça serait du nombrilisme de penser que l'école est concernée par ça. Ce qui pose un problème aujourd'hui, c'est, et on l'a bien vu sur des sujets très précis, on l'a vu sur la ratification du traité européen, on l'a vu sur la question de la laïcité, regardez les salles de classe à l'école primaire, ou les salles de maître à l'école primaire, ou les salles de prof au collège, au lycée, les clivages qui se sont installés au sein même des syndicats unitaires, sur des questions fondamentales qui sont liées à l'identité, mais à l'identité intellectuelle, mais pratique, sentie. C'est-à-dire qu'au fond, on s'est retrouvé dans une situation où tout d'un coup, on s'est rendu compte que l'école faisait partie de la société tout entière, prise dans ce que François Hartog, après Kozelek, appelle un horizon d'attente non défini, c'est-à-dire un présentisme, une situation où on ne sait plus ce qui fonde le « nous », premièrement, et on ne sait pas ce que nous allons faire de nous. Et le « nous-même », on l'a vu dans l'enquête sur l'enseignement de l'histoire de l'immigration, est problématique. La majorité des classes fonctionne dans un rapport entre eux et nous. Il y a « nous », le socle français, sans que personne puisse le définir. Et il y a les « eux », c'est-à-dire les enfants d'immigrés qui sont dans les classes et que nous devons accueillir dans une vision... évidemment, simpliste de la réalité et surtout très qui clive. Autrement dit, cette perte de l'horizon d'attente entraîne le doute. Et du coup, on se réfugie dans des formes sacrales de commémoration de religion civile, que sont les commémorations. Hein. C'est-à-dire que la commémoration, alors, Guy Moquet, on va toute une série de formes. Il faut enseigner l'esclavage à l'école primaire, dit notre président. Oui, je dis nous, notre. Alors que depuis 10 ans, on enseigne l'esclavage à l'école primaire, et même, je peux vous dire, même que dans l'école primaire, on enseigne l'esclavage sous plein de formes différentes depuis très longtemps, en fait, que c'est un des thèmes que l'on aborde. Donc, on est dans l'injonction commémorative, dans l'injonction mémorielle, qui, en fait, définit en creux le fait que on ne sait plus quoi faire de nous. Et voyez en quoi la nation, évidemment, peut être... Quel horizon d'attente? Dans l'idéal humaniste, on ne dissociait pas, je le tiens de Yanis Thanasekos, qui est président de la Fondation Schwitz à Bruxelles, qui nous a expliqué ça récemment à Genève. Dans l'idéal humaniste, on a ce rapport à la fois à ce que l'on apprend du passé, à ce que l'on en fait dans la vie publique, et puis à ce que l'on espère dans le futur. Et tout l'idéal humaniste a fonctionné sur ce registre-là jusqu'à, enfin tout l'idéal des Lumières, disons jusqu'au XIXe siècle. Dans la spécialisation des tâches, les historiens sont devenus détenteurs de ce qu'il faut faire dans l'histoire et de ce qu'il faut penser du passé. Il y a eu des sphères qui se sont développées sur aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait, déconnectées parfois des raisons historiques. Et puis il y a la question de l'espérance et qu'est-ce qui nous reste de ça? Qu'est-ce que c'est qu'une nation sans espérance? Rassurez-vous, je ne vais pas faire du Renan. C'est-à-dire, mais je vais plutôt faire du COSELEC, c'est-à-dire que quelle société peut se passer d'un horizon d'attente ? Laurence ?
Je vais être... Déjà, nous venons d'accueillir donc Gérard Noiriel, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais être beaucoup plus brève que Benoît et revenir sur deux aspects qui me semblent importants. Sous l'aune, on va dire, d'une certaine colère, pour dire plus que l'amertume dont tu parlais tout à l'heure, Michel. Revenir d'abord sur la question du débat sur l'identité nationale, puisque Benoît l'a posé. Il est vrai que ça a agité un certain nombre de chercheurs, d'enseignants, bien entendu, parce qu'on a bien vu que l'école a été prise à partie immédiatement par le ministère, à la fois via les médias, mais aussi via des circulaires, j'en reparlerai cet après-midi, hein, via une circulaire très claire adressée par le ministère de l'Identité nationale, Besson, au ministère de l'Éducation nationale, demandant très clairement au ministère de l'Éducation nationale de s'associer à ce débat. Donc il est vrai que les chercheurs et les enseignants ont été particulièrement pris à partie dans ce débat et qu'on est un certain nombre à avoir refusé, Gérard est évidemment mille fois mieux placé que moi pour en parler, à avoir refusé de s'exprimer dans le cadre qui nous était posé par l'agenda politique. Nous avons, parce que donc je dis nous, tous les trois, nous avons été sollicités moult fois, Benoît et moi sur la question de l'école, Gérard davantage sur le débat politique et sur l'action de l'histoire. Nous avons refusé un nombre inquantifiable de fois de nous adresser aux médias. Parce que ça ne nous semblait absolument pas pertinent de devoir réfléchir à chaud à une question extrêmement lourde qui était dictée par un agenda, qui plus est, émanant d'un gouvernement dont nous ne cautionnons que très peu d'aspects. Et émanant d'un ministère dont nous souhaitions la disparition. Donc ça faisait beaucoup quand même pour refuser de s'exprimer sous cette forme-là. En revanche, il est évident que c'est une question qui nous intéressait bien avant qu'elle soit soulevée par le politique, en tout cas le gouvernement, et donc le fait d'y réfléchir à froid, comme dirait Françoise, c'est-à-dire avec distance et avec des outils qui sont les outils du chercheur et du scientifique. Là, bien entendu, la question se pose autrement et de ce point de vue-là, il nous semblait tout à fait légitime de prendre le temps, d'observer et de prendre le temps de mobiliser des outils qui nous semblaient, on va dire, plus efficaces, en tout cas plus pertinents pour penser ces questions qui sont difficiles et qui n'appellent pas de réponses spontanées sur des sites internet qui ont pour mission uniquement de digérer de la fausse opposition pour alimenter une vitrine démocratique. Donc, position de saine distance, on va dire, par rapport à ce débat. Mais ma colère n'est pas là. Le ministère a disparu, même si évidemment toutes les idées sont encore présentes et surtout les acteurs qui les incarnent sont encore là. Ma colère n'est pas là, ma colère est là, ici, dans cet institut. Dans cet institut qui est donc, je ne sais pas s'il est menacé, enfin en tout cas, il fait l'objet d'une refonte, on va dire, d'une réinvention, soyons positifs, il fait l'objet d'une réinvention. Et malheureusement, tout cela arrive dans un contexte où le corps enseignant, si tant est qu'il fasse encore corps, subit un certain nombre de foudres et d'attaques. Donc ma colère est davantage là et c'est plus en tant qu'enseignante que j'ai eu envie d'intervenir aujourd'hui et de participer à cette journée. Enseignante du secondaire, enseignante heureuse de l'être, mais enseignante extrêmement inquiète et amère par rapport à tout ce qui nous tombe dessus. Bon, j'ai décidé que je dirais les choses assez franchement. Donc voilà, je voudrais profiter aussi de cette journée pour m'interroger avec vous. Évidemment, je ne vais pas apporter de réponse, mais j'espère que nous allons soulever un certain nombre de questions. Pour m'interroger avec vous sur la responsabilité que nous portons, nous aussi, en tant qu'enseignants, dans ces attaques dans cette incapacité que nous avons eue à circonscrire, je pense, ce qui fait notre compétence d'enseignant et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes, aux yeux de certains, totalement interchangeables, absolument pas spécifique à tel point que notre métier n'est même pas digne d'une formation lorsqu'on arrive sur le terrain et qu'à la limite, hein, si on mettait un boulanger devant des élèves, finalement, ça comblerait des trous, ça assurerait la continuité du service public et ce serait pas forcément dommage. Donc je crois que nous avons une responsabilité, une fois que nous sommes bien pleins, nous avons la responsabilité ensemble de réfléchir à ce qui fonde. Évidemment, ça a déjà été fait, hein, je ne suis pas en train d'inventer le fil à couper le beurre, mais peut-être de mettre des mots qui sont plus intelligibles pour tous sur ce qui fonde nos compétences professionnelles, sur ce qui fait que tout le monde ne peut pas enseigner devant des élèves, qu'ils soient de primaire ou de secondaire. Je crois qu'il y a urgence. Et ça passe par la nécessité de redéfinir ou de poursuivre la définition, ou peut-être de travailler à diffuser l'information autrement, redéfinir ce qu'est un savoir scolaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de participer avec Benoît à cette question-là. Définir ce qu'est un savoir scolaire, donc Benoît en a déjà parlé avec les travaux de Chervel, et pourquoi pas prendre ce prisme de la question de l'articulation politique entre les écoles et les nations pour se demander si le national est scolarisable en tant que savoir, s'il existe un savoir scolaire national, enfin, c'est-à-dire décliner finalement la formule d'un point de vue scolaire. Alors, je vais pas le faire là avec vous, mais je vais quand même jeter quelques pistes qui pourront être des supports de réflexion pour cette journée. Donc, revenir sur la manière que j'ai, moi, de penser un savoir scolaire, c'est-à-dire le matériau instable sur lequel je travaille. Car c'est un matériau instable. En tout cas, c'est une expression qui m'est venue et que je trouve assez sensée par rapport à ce sur quoi nous travaillons, encore une fois, en tant qu'enseignants. Donc je vais vous jeter en fait quelques pistes un peu formulaires que nous pourrons discuter sur ce qui pourrait définir à mon avis un savoir scolaire. Donc un matériau instable, je l'ai dit, c'est-à-dire instable parce que il est une sorte de bois aggloméré. C'est une sorte de bois aggloméré. On ne travaille pas sur du chêne, je dirais que le chêne d'une certaine manière, encore une fois j'utilise des images métaphoriques, hein, mais tout ça c'est évidemment pour alimenter la réflexion, le chêne serait le savoir scientifique, l'arbre serait le savoir scientifique, et nous fabriquons du savoir scolaire à partir du savoir scientifique, mais évidemment pas par une magique opération de transformation où le savoir scientifique pourrait de façon comme ça immuable être dite et surtout comprise et surtout digérée par les élèves. Donc nous manipulons ce savoir, nous l'instrumentalisons ce savoir, et comme l'école est un lieu politique, nous l'instrumentalisons politiquement, ce qui est pas forcément disqualifiant de le dire comme ça, mais Benoît a rappelé que un savoir scolaire, c'est un savoir qui est pris dans une chaîne de montage qui est le curriculum, il est pris dans une chaîne de montage, il est assigné de finalité. Dans le cas évidemment de l'enseignement d'histoire, on le sait très bien, hein, finalité civique, etc., édification de la citoyenneté, d'adhésion, critique, on pourra en reparler. Mais donc il est assigné de finalité, il est pris dans une chaîne de montage, et de ce point de vue-là, un savoir scolaire est une instrumentalisation de plusieurs savoirs scientifiques. Et du coup, je pense, mais nous pourrons en rediscuter, que tous les savoirs scientifiques ne sont pas scolarisables, et qu'il faut l'avoir en tête, et qu'il y a certaines recherches, certains fruits de la recherche qui ne peuvent pas comme ça, comme un allant de soi, qui ne peuvent pas être transposés aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer dans les classes. Et donc, évidemment, critiquer des programmes scolaires en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont ringards, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont loin de la recherche scientifique, etc. », c'est pas si simple. Il y a, je crois, des savoirs scolaires qui ne sont pas transférables, on pourra en reparler, j'ai un certain nombre d'exemples, mais je laisse planer le suspense. Par ailleurs, nous avons une profession qui est liée au savoir scolaire, mais qui définit plus globalement notre profession d'enseignant. Vous voyez que je m'éloigne de la problématique de la journée, mais en même temps, c'est pour mieux y retourner. Nous avons une profession qui a ceci, à mon avis, de spécifique, que l'efficacité de nos actes est différée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons autant de mal à l'évaluer. C'est-à-dire que lorsqu'on entend quelqu'un dire « Là, j'ai vraiment fait un cours qui a réussi », on sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, et c'est déjà important, qu'il a eu beaucoup de plaisir à faire ce cours. Ça veut dire, et c'est déjà aussi très important, que les élèves ont sans doute eu beaucoup de plaisir à assister et à participer à ce cours. Mais ça ne veut rien dire de l'efficacité de ce qui a été transmis. Et donc, nous avons, nous, cette spécificité qui est de ne pas pouvoir mesurer instantanément l'efficacité de ce que nous transmettons. Alors, je donne un exemple pour recoller à la problématique de la journée. Éducation civique, une stagiaire me raconte une séance. Elle est en cinquième, donc en cinquième, le programme porte sur le racisme, les discriminations, etc. Et comme tout jeune professeur, elle est en stage dans un établissement un peu difficile et avec une population, on va dire, héritière de multiples origines. Et elle a à cœur de montrer à quel point le racisme est mal et à quel point il faut tous aimer les uns les autres puisque les prescriptions d'éducation civique nous demandent de le faire. Et donc elle me dit, je comprends pas ce qui s'est passé. D'habitude ils écoutent pas, ils sont là, j'arrive pas à les cadrer, Mamadou tu t'assois, toi t'attends que je te donne la parole, etc. C'est le brouhaha pas possible. Et là, je fais un cours sur le racisme et donc je discute avec eux et on débat et c'est super et tout le monde trouve ça vraiment absolument insupportable, le racisme, parce qu'on est tous égaux et parce que mon voisin c'est mon frère, c'est un cours qui a super bien fonctionné. Et quand ils sortent, ça sonne, et quand ils sortent, après avoir vraiment pendant une heure, t'es tous derrière moi pour condamner le racisme, et quand ils sortent, je comprends pas, il y a Mohamed qui dit à je sais plus qui, sale négresse, t'as un gros nez. Elle me dit, comment est-ce que c'est possible qu'après avoir passé une heure à condamner ça et à trouver tous les arguments possibles, comment est-ce possible qu'une fois le seuil de la porte franchi? Alors évidemment, on va pas nous se demander comment est-ce possible, on le sait bien, on travaille avec des élèves, donc on sait bien aussi l'usage social de l'insulte, etc. Mais bon, vous voyez, pour vous dire à quel point c'est aussi frustrant pour un enseignant de ne pas pouvoir mesurer l'efficacité immédiate de ce qui est transmis. Autre aspect sur le savoir scolaire, contrairement aux autres types de savoir, à partir du moment où il est mis en situation de mise en scène dans une classe, est présenté comme une vérité. Il est présenté comme quelque chose qui va de soi. Il est présenté comme quelque chose qui n'a pas d'histoire et qui, du coup, ne peut pas être déconstruit. Et de ce point de vue-là, nous sommes, nous, dans une posture qui est parfois extrêmement inconfortable, qui est la posture d'imposition de vérité. Vous voyez où je veux en venir ? Lorsqu'il s'agit du national, l'imposition de vérité sur le national pose quand même un certain nombre de questions politiques de fond. Autre élément, le savoir scolaire, on en parlait hier lors d'une réunion, inclut dans son processus de formation ce qu'on appelle des savoirs sociaux. Encore une fois, je n'invente pas la lune, nous le savons. Mais c'est important de le rappeler parce que nous travaillons avec des élèves qui, à mon avis, sont des élèves, j'ai commencé par dire des élèves hyper savants, maintenant je dirais que nous avons des élèves hyper sachants. C'est-à-dire que nous avons des élèves qui arrivent dans les classes pénétrés de multiples certitudes, parce que nous sommes dans une société dans laquelle les circuits de, enfin les pardon les circulations de savoir voilà sont multiples. Les circulations de savoir sont multiples et sont mises en équivalence dans l'espace public. Elles sont mises en équivalence à tel point qu'il n'y a aucune raison pour que un élève nous fasse plus confiance à nous qu'à Julien Lepers en tant que prof d'histoire. Et justement, tous les éventuels conflits qui peuvent exister dans les classes à propos des questions dites controversées sont des conflits qui émanent de cette problématique-là. C'est-à-dire, j'ai entendu par un autre canal de diffusion une information qui va à l'encontre de celle que vous me donnez. Au nom de quoi serais-je susceptible de vous accorder davantage de confiance qu'à l'autre source d'information ? Au nom d'une adhésion, parce que vous êtes quelqu'un de très sympathique, je vous aime bien madame et j'ai envie de vous faire plaisir, mais en même temps j'aime bien ma maman aussi, et je vois pas pourquoi, lorsque maman me dit que Mahomet a fait un voyage à Jérusalem en une nuit, ce serait faux. Bon. Donc tout ça vous connaissez bien, c'est-à-dire une société de mise en équivalence des savoirs, et sur laquelle nous devons absolument nous pencher, de toute urgence, certains ont déjà commencé à le faire, mais ça me semble une question politique extrêmement... vive pour le coup, enfin en tout cas urgente, parce que circonscrire nos compétences d'enseignants, ça veut aussi dire pouvoir mettre des mots sur ce qui nous rend légitimes dans notre mission de transmission de savoir et donc sur ce qui fait la spécificité des savoirs que nous enseignons. Dernier aspect, le savoir scolaire, vous le savez, ce ne sont pas seulement des connaissances, ce sont aussi des compétences, c'est dans l'air du temps. Et par rapport à la question qui nous anime aujourd'hui sur quelles écoles, quelles nations, évidemment, la question des compétences va se poser de manière particulièrement ambiguë. Mais surtout, ce que j'aimerais soulever comme hypothèse, c'est que cette réflexion sur le socle commun des connaissances et des compétences, je me demande, donc cette réflexion sur le bien commun, sur la culture commune, ce qu'on entend assez régulièrement pour légitimer la mise en place du socle, je me demande si cette réflexion sur le bien commun, sur cette culture commune, n'est pas ce qui se substitue progressivement à la réflexion sur la matrice nationale. C'est-à-dire que finalement, quelle culture commune devons-nous inventer pour se substituer à celle de la matrice nationale, qui pour le moment est la seule culture commune, dans le discours en tout cas, qui est véhiculée par l'école, dans l'enseignement de l'histoire. Vous me suivez ? On pourra en reparler. Donc, culture commune, question nationale, comment les deux s'articulent ? Est-ce qu'on ne va pas vers la substitution progressive de la problématique de la culture commune à la problématique de l'école comme matrice d'une identité nationale ? Je crois que ça, c'est une question qui me semble particulièrement importante. Bon, tout ça pour dire, j'ai dit que je ne serai pas longue, donc je vais m'arrêter assez vite. Tout ça pour dire que il est vraiment navrant que les lieux dans lesquels nous pouvons réfléchir sur nos outils professionnels, que ces lieux soient mis en danger, que certains agents qui permettaient de faire l'interface justement entre le monde de la recherche et le terrain, comme les professeurs associés à l'INRP, soient aussi mis en danger en termes d'existence tout simplement. Et donc je clôturerai à la fois par une touche d'espoir et une touche d'amertume. J'espère que nous saurons ensemble inventer dans ce qui s'échafaude. J'espère que nous saurons ensemble inventer des nouvelles réponses à ces questions qui, à mon avis, sont des questions d'avenir pour l'école, sachant que l'école est un lieu éminemment politique, qu'elle le restera et que je crois qu'il faut qu'elle soit pensée comme telle, hein, c'est-à-dire comme un lieu qui est l'un des fondements de l'édification de la société de demain, et quels sont également les lieux dans lesquels nous pourrons réfléchir à ce qui nous fonde et ce qui nous légitime, nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'adultes devant officiers, devant des enfants et des adolescents.